Il manque Monsieur James Suckling, qui est quand même l'homme du vin, celui qui le goûte et qui sait l'apprécier. Et il nous manque Jean-Michel Wilmotte, l'architecte, qui va nous rejoindre, qui a été l'auteur de quelques exercices dans nos territoires. Et donc, moi, je vais commencer avec Philippe Schex, qui est ici écrivain, amateur, un amateur éclairé, et qui a fréquenté l'architecture de très près, puisque, enfin, quand on est architecte, il faut des maîtres d'ouvrage, et que M. Schex est surtout, et au premier plan, un maître d'ouvrage d'exception, puisqu'il a dirigé l'établissement public d'aménagement de la Défense
Absolument.
pendant longtemps.
Pendant 6 ans.
Et j'ai appris que vous étiez président d'une école d'architecture. Donc
Absolument.
ça nous touche au plus près du cœur, puisque il faut que, pour que l'architecture vive, qu'elle se développe par une jeunesse éclairée et dynamique. Et ici, vous nous rejoignez parce que on ne connaissait pas vos talents d'amateur du vin et d'amateur des belles choses, que vous avez déployé dans un ouvrage magnifique qui parle de nous, de notre terroir, de ce terroir du vin qui a pu donner lieu au fil des siècles, parce que au siècle dernier, déjà des architectures exceptionnelles se développaient, comme Causse d'Estournel, par exemple, des folies comme ça. Et puis, avec le renouveau de la puissance du vin, vous avez été à la recherche de ce qui se fait de mieux en qualité pour nos vignobles aujourd'hui, pour les réceptions, mais aussi pour le travail du vin, etc. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner votre. Enfin, voilà, pourquoi ce voyage dans nos territoires?
Merci infiniment et bonsoir à tous. Tout simplement parce que Flammarion, représenté ici par Madame Ghislaine Pavoilot, qui est directrice de collection, a eu l'envie, le désir, comme Flammarion avait édité elle-même, d'ailleurs il y a quelques années, un très beau livre sur le classement de 1855 et des grands crus classés, l'idée de reprendre le sujet de quelques grands crus à travers le prisme de l'architecture. Et on s'est rencontrés sur ce projet parce que moi j'avais très envie de parler de deux de mes passions qui sont le vin lorsqu'il est bon et l'architecture lorsqu'elle est bonne. Et donc après être allé en voyage en Espagne, en Californie, en Italie et en France, je pensais qu'il était de bonne opportunité de faire sur le Bordelais, rive droite et rive gauche, une réflexion sur comment l'architecture porte, non pas le renouveau, parce qu'il n'a pas besoin d'être renouvelé, mais porte les grands crus de Bordeaux dans le mouvement de la mondialisation actuelle qui lui fait une large place et un grand succès. Et que c'était l'occasion de faire cette espèce de présentation croisée de l'architecture et des grands vins en parlant de la technique, parce que c'est l'une des raisons, en parlant de l'esthétique et en parlant des valeurs que portaient ces nouvelles architectures. C'est ce que nous avons essayé de faire.
Alors, l'intérêt du livre qui manque de partenaires, c'est que pour chaque château, il y a votre texte, souvent enfin très instruit et très gentil à l'égard des architectes.
Oui.
Hein, aucune critique, on pourra peut-être y
C'est
venir
pas le but.
éventuellement, ce n'est pas le but.
Non.
Mais en parallèle à ça, il y a le goût du vin, puisqu'il y a une analyse
Voilà.
d'une année du vin qui est abritée dans les chais par James Suckling. Et je crois que le fond de la question, si on parle de qualité aussi d'identité, peut-être, si un architecte vient ici, c'est au fond comment les architectures que vous avez rencontrées au travers de ce périple vous semblent entrer en harmonie, en cohérence avec l'idée que vous vous faisiez ou la réalité, la tessiture du territoire. Voilà. J'ai envie de vous poser la question. Dans ces architectures que vous avez rencontrées, certaines semblent telles en harmonie, d'autres en rupture.
Je pense qu'il y a d'abord quelques idées d'ensemble. La première, c'est de valoriser, c'est de mettre en valeur on va pas faire ici de la sémiologie, mais on pourrait, on est dans un langage de représentation très valorisant. On cherche vraiment, à travers ces nouvelles architectures, à parler à l'œnotouriste, à parler à l'amateur, à parler au dégustateur, à parler au client, pour employer un langage très simple, de ce que des valeurs que porte ce terroir, ce territoire, et donc ce produit, ce vin, la façon de le faire. Et ça me semble extrêmement important. Alors, il y a une façon d'en parler très classique, comme dans certains chais. Il y a une façon d'en parler plus technologique, comme dans d'autres. Il y a une prise en compte des techniques de vinification de façon absolument éclatante dans certains cas où les architectes ont voulu montrer, et même plus que montrer, prouver, entre guillemets, que les techniques de vinification avaient évolué. Et donc, on parlera de gravitaire, évidemment, on parlera de cuve à la parcelle, on parlera d'un grand nombre de procédés nouveaux, entre guillemets, parce qu'en réfléchissant bien, ils ne le sont pas tant que ça non plus. Mais il y a cette volonté de montrer la maîtrise technologique. Il y a une volonté aussi, c'est le troisième point, de faire un lien très fort entre le vignoble, la façon dont les vins sont travaillés, entre guillemets, et l'environnement. C'est pas un hasard si tous ces chais sont transparents, c'est pas un hasard si tous ces chais, ou la plupart, ouvrent sur les vignes et sur la nature. C'est pas un hasard s'il y a cette volonté d'utiliser des matériaux comme le bois, comme la pierre. En permanence, cette nouvelle architecture, entre guillemets, veut montrer ça. Et ça, c'est dans l'air du temps, et pourquoi pas, c'est une évolution des méthodes de vinification, et pourquoi pas, on n'est plus ou on est de moins en moins sous le sol, dans les caves obscures, où on se cache, entre guillemets, pour faire du vin, non pas qu'on ait quelque chose à cacher, mais que c'était une certaine conception de faire ça dans des endroits clos. Maintenant, on ouvre, on est transparent, il y a du verre partout, et dans certains des nouveaux chais, on passe presque sans s'en apercevoir, de l'extérieur à l'intérieur, oui, et inversement. Et ça, c'est une signification parfaitement claire. C'est l'esprit du temps, et c'est un certain retour à montrer comment le vin se fait directement au contact de l'environnement. Et ça me semble très fort dans ces nouveaux chais.
Alors à ce sujet, justement, ce que vous venez d'évoquer, cette architecture a à voir avec un terroir et avec un territoire. Et j'ai vu que, alors d'abord 12 châteaux, 12, pas un de plus.
Plus la cité.
C'est 13.
C'est 13.
C'est la Seine.
C'est la Seine.
Qui est Judas? Alors, on commence par le plus phénoménal, c'est l'opéra de béton, série Cardo-Vofil. C'est magnifique. C'est l'ouverture,
c'est
1974.
Ouais,
et alors, rapport au paysage, on s'enfouit et justement on entre dans la masse avec ce chais circulaire d'une maestria, enfin qui n'est pas circulaire, qui est octogonale, mais les cercles de barrique. Ça, c'est une magnifique, c'est une mise en scène.
C'est une mise en scène, ça a passé le temps très bien. Et comme le propriétaire de la propriété le dit très, très justement, c'était aussi un élément de productivité. Il ne faut pas le sous-estimer. C'était aussi une façon de gagner des kilomètres à pied chaque année pour faire tourner les barriques, les changer et faire travailler le chai. C'était une façon assez habile, assez brillante même, d'améliorer considérablement les conditions de travail de ceux qui tous les jours travail. Il a passé le temps, je trouve, à la perfection.
Merveilleusement.
Merveilleusement
et,
bien.
Ouais. Et ce qui est, comme vous dites, c'est très juste, c'est un outil. Alors, c'est pas un outil de communication, c'est un outil par conséquent de communication. Mais il m'est arrivé d'arriver dans ce chai à un moment, je parle devant des viticulteurs ici, où on ébouillante les barriques. Je sais pas s'ils le font encore, mais à l'époque, ils le faisaient au milieu. Et au milieu, parce que c'est là que... Alors, il y a un côté usine, un côté opéra de Wagner, là où la fumée monte. C'est absolument d'une force inouïe. Un autre château qui a à voir, beaucoup plus récent, mais qui a à voir avec la masse et ce côté tellurique, beaucoup plus léger, féminin, c'est celui de Christian de Portzamparc,
Cheval Blanc.
Cheval Blanc, qui est un travail sur la topographie.
Un travail évident sur la topographie, comme il le dit lui-même, le chai sous la colline. Ce chai est représentatif des tendances actuelles dans ces nouveaux chais. Donc on est à l'intérieur dans des technologies très subtiles, un énorme travail dans les cuves, des salles de dégustation vraiment faites au cordeau pour que ceux qui dégustent voient à la fois l'extérieur et l'intérieur et se retrouvent dans une situation de confort extrême, ce qui est très important pour se concentrer. Et en même temps, à l'extérieur, comment la colline est soulevée tout doucement avec cette belle terrasse au-dessus, qui fait que, comme je me suis permis de l'écrire, lorsqu'on est sur la terrasse, on a l'impression qu'en tendant la main, on va toucher les vignes. Et ça, c'est très nouveau. Ça n'a rien à voir avec tout ce qui avait été fait au précédent siècle. Et c'est un bon exemple.
Et c'est très juste. Ce chai, donc, représente, comme celui de Ricardo Bofill, cet attachement à rendre compte du terroir et du paysage. Et si vous allez à Cheval Blanc, on ne monte que de 7 mètres. Et à 7 mètres de haut, on voit, à côté il y a le chai de Jean Nouvel, dont on parlera plus tard, mais on a cette espèce de décollement et de vue sur toute la géométrie des vignes, et c'est une interprétation splendide dans la masse, avec les ondulations des poutres, avec les cuves ventrues en béton, etc. Alors ça, c'est la première tendance. Et puis, vous avez parlé au début de high-tech. Jean-Michel Villemotte, Jean-Michel, toi, tu as eu la chance et la lourde charge de travailler notamment au début à Causse d'Estournel. Et à Causse d'Estournel, j'aime beaucoup le titre de votre texte qui s'appelle « Lâchez-vous, Monsieur Villemotte ». Ça tombe bien. « Lâchez-vous, Monsieur Villemotte », mais sous-entendu, cette œuvre initiale, ancienne, est tellement fabuleuse, tellement exubérante, tellement riche de patrimoine, qu'on t'attendait au virage. Et tu n'as pas déçu. Et dans d'autres, alors par exemple, le bois sculpté des poutres voisines est transformé par Jean-Michel en poutres de verre et d'acier, en poteaux de verre et d'acier. Alors, est-ce que tu peux nous dire comment, toi qui es auteur de musées, auteur de grands projets et designer mondialement connu, comment tout d'un coup ton art de faire vient s'inscrire dans une histoire patrimoniale comme ça vers chez nous?
Je précise que si j'ai mis comme titre « Lâchez-vous, Monsieur Villemotte », c'est de la faute de Monsieur Villemotte qui, lors de notre entretien, m'a dit « J'avais fait des dessins et tout, et Monsieur Rébier, le propriétaire, trouvait que tout ça n'était pas assez puissant et m'a dit « Lâchez-vous, Monsieur Villemotte ».
C'est rare, hein, pour un architecte, c'est comme ça que
c'est comme ça que j'ai repris le titre. Voilà.
Non, bonjour à tous, excusez-moi pour le retard. Non, ce qui se passe, c'est que quand c'est tourné, ça a été vraiment mon premier regard dans le domaine du viticole. Il se passe que ce qui était intéressant, c'est que on a un bâtiment qui est très charismatique, un bâtiment qui est déjà un signal en soi, et il fallait une intervention respectueuse et élégante. Et dans ce qui concerne ce projet, j'ai saisi l'occasion qui m'était donnée de faire un projet basé sur une technologie. C'est-à-dire que les exploitants de ce vignoble ont choisi de faire du gravitaire. Et donc, mon sujet a été très, très simple, mais à la fois difficile, mais très simple dans la mesure où il a fallu que je mette en exergue, en scène, finalement, le process. Notre rôle, il est resté là, ça n'a pas été plus loin. Donc, le concept, ça a été de dire, on excave, donc on dépose le château, on excave, et après on va le reconstruire. Et on excave à moins de 17 mètres, de façon à ce qu'on puisse avoir toute la latitude pour que le process s'exprime, en partant de la vendange, de l'égrenage, qui va directement dans les cuves, directement, et ensuite qui va dans les fûts de chêne. Le tout sans qu'il y ait aucun chemin disons, qui détourne le vin de son circuit naturel. Donc ils descendent par gravitaire. Et puis il a fallu après, pour les assemblages, avoir des cuves qu'on a montées dans des ascenseurs. On a créé des ascenseurs à barriques. Et je crois que c'est ce qui est le plus spectaculaire. Et je crois que c'est la première fois que ça se faisait dans le Bordelais, je crois. Hein. Mes amis mazières qui me conduiront peut-être, je ne sais pas. Sachant qu'il fallait qu'on puisse déplacer le vin pour faire les assemblages, sans les systèmes traditionnels de tuyaux d'arrosage qui étaient transformés, système de pompe, etc. Et donc on a fait ces cuves, c'était la première fois que ça se faisait, des cuves donc qui se déplacent, qui vont directement dans la partie, qui partent de la partie cuverie et qui vont vers la partie fût de chêne et qui descendent au niveau des fûts de chêne, et là on fait l'assemblage. Et donc ça, c'était quelque chose de très intéressant. Donc notre travail, c'est quoi? C'est de dire, on a 60 cuves de 150 hectolitres côte à côte. Comment on les met en scène, comment on les régule, comment il y a quelques-unes qui sont un petit peu plus petites, c'est une véritable mise en scène, si vous voulez. On les met sur un plateau qui est en réalité un grillage d'inox qui est très transparent, puisqu'il doit laisser passer les déchets, si vous voulez. Donc on les met côte à côte, on les éclaire, on les valorise, si vous voulez, et puis au-dessus, si vous voulez, non pardon, je me suis mal exprimé, on les met côte à côte sur un sol en béton brut ou en carrelage, là en l'occurrence. Au-dessus, on a un plancher qui est accessible par les vendangeurs, qui amènent les raisins sur des chariots et qui les déposent dans les fûts. Et en dessous, on trouve les fûts de chêne. Donc, si vous voulez, donc notre travail, c'était de mettre en exergue et de mettre en scène et en lumière donc ces alignements de fûts en ce qui concerne la partie basse et les cuves en partie haute. Et donc après, il fallait reconstruire un hangar. Le hangar, on l'a construit en utilisant, disons qu'on a gardé la même silhouette de bâtiment. C'est un confrère que j'ai fait venir qui travaille dans les monuments historiques qui l'a refait. Alain Charles Perrault, qui l'a refait à l'identique. Mais par contre, l'intérieur, c'est là qu'on a fait toute la structure, est faite en inox et verre, qui sont finalement, on retrouve les trois matériaux du vin, c'est l'acier, le bois et le verre. Et on les retrouvera tout le temps dans ce bâtiment, avec cette mise en scène très, très, très forte du process, quoi.
Oui. Donc c'est tout le paradoxe que tu viens d'évoquer, c'est que le travail souvent de l'architecte dans cet ouvrage, c'est un travail hyper technique, c'est-à-dire ça abrite la technique, c'est très technique, comme une usine finalement, et évidemment il faut faire plus, et toi tu allais plutôt dans le sens de magnifier
des cuves en inox qui étaient des cuves à double paroi qui sont montées sur des pieds détachés du sol. Des derviches tourneurs, j'appelle ça. Ils sont côte à côte comme ça, c'est très fort, et c'est l'effet de répétition qui est fort et qui est intéressant dans ce projet.
Et ça, à nouveau, tu l'as remis en scène encore plus fortement.
Alors parce là, on était dans un bâtiment. Là, on était dans un bâtiment ancien.
Fermé, voilà.
Un bâtiment ancien. Ce qui est étonnant, c'est de rentrer dans ce bâtiment, on ouvre deux portes, il y a un phénomène incroyable, puisqu'on découvre
derviche tourneur,
ça, derviche tourneur, si tu veux. Les ascenseurs à barils qui sont complètement étonnants. Et puis, après, quand on descend, on se trouve sur une passerelle en lévitation au-dessus des fûts de chêne. C'est-à-dire qu'on ne. On n'est pas tout de suite en contact avec les fûts de chêne.
C'est ça que vous appelez le plancher médocain ou pas ?
Exactement.
On a une sorte de passerelle qui flotte en suspension, beaucoup de verre, beaucoup de transparence. Et là, on se balade au-dessus des fûts de chêne. Mais ça, c'était la logique et qui était déterminée aussi par l'espace.
Ça, c'est la logique du travail.
Voilà, exactement. C'est la logique du travail, mais ça, c'était aussi en accord avec l'espace dont on bénéficiait.
Et donc récemment, tu as remis en scène ces derviches, mais vraiment en contact direct avec l'extérieur, sur ce plancher de béton blanc à Pédesclos, là où on voit les cuves.
Alors là,
depuis l'extérieur.
Là, c'est une autre histoire. Pédesclos, on partait de zéro. Enfin, on partait de zéro, il y avait 5 ou 6 bâtiments. Je voulais signaler quand même que ces projets aussi, j'ai un confrère qui s'appelle Arnaud Boulin qui travaille avec nous sur ce projet et qui nous accompagne toujours et qui fait aussi l'interface entre les gestionnaires des grandes propriétés et nous-mêmes qui faisons la partie conception. Alors à Pédesclos, quand on est arrivé, c'était très très difficilement lisible. Il y avait 4 à 5 bâtiments. Et il y avait un pauvre petit château qui avait les bras un peu courts. Et c'était pas un endroit, disons, représentatif pour quelqu'un, pour un homme qui avait l'ambition d'en faire un grand nom. Donc la première chose, j'ai rassuré mon client en disant, ne vous inquiétez pas, bon, le château, il a des petites ailes, mais on va les agrandir, on va les mettre sous verre, on va les allonger. Donc ça, c'était la première idée. Ça s'est passé dans la première demi-heure où j'ai rencontré le propriétaire. Ça, il faut le savoir, ça s'est passé comme ça. Hein. C'est-à-dire que lui, et quand je lui ai dit, ben non, on va allonger les ailes du château, alors lui, là, il était fou de joie parce que ça reprenait, avec toute sa sobriété, ça reprenait ce qu'il attendait. Et que ça puisse s'appeler un château et pas une maison de gardien. Et puis après, il fallait faire l'échée. Alors l'échée, c'est une idée que j'ai eue au tout début. Je me suis dit, j'aimerais faire un bâtiment dont on ait l'impression qu'il tient sur des cuves. C'est-à-dire que l'architecture, imaginez un temple grec ou une colonnade, sont les cuves qui sont posées côte à côte, comme cela. Et puis, on a l'impression qu'on pourrait même faire abstraction du vitrage. Au début, je voulais un vitrage qui soit non réfléchissant, si vous voulez, anti-reflet. Mmh. Mais après, je dis, on va poser le bâtiment dessus, et c'est comme un temple grec. Vous voyez, il y a des colonnes, comme ça, les cuves, côte à côte. Il y en a devant, on doit en avoir 25, je crois. Et puis, le bâtiment qui fait un socle au-dessus et qui est en lévitation au-dessus. Mais on donne l'impression que... Et par certains éclairages, par certains reflets, par certains éclairages la nuit, on a cette impression. Et ça, c'est étonnant. Et alors, encore une fois, là, c'est la mise en scène. Hein, on est vitré, on a ces colonnes, les fûts sont alignés, il y en a 75, je ne sais pas, ou 76, c'est un chiffre pair. Et puis, au cœur, il y a une espèce de cœur, si vous voulez, de noyau, où ce sont les escaliers qui permettent d'aller soit... sur le gris au-dessus qui est l'égrenage, toujours, hein, l'endroit où la vendange arrive, parce que les raisins arrivent directement sur l'étage supérieur, ils sont triés, ils partent dans les chariots, on les met directement dans les cuves. Et alors, et en dessous, on va vers la partie fût de chêne, qui est un super endroit, c'est une véritable cathédrale, si vous voulez, c'est un endroit qui est totalement magique. Et puis, maintenant, on termine, puisque le client a accepté qu'on fasse le caveau, maintenant, qui va être aussi un lieu étonnant, ça va être une bibliothèque de où on classera les différentes années de la récolte.
Sur cette orientation comme ça, très à la fois enfin poétique et moderne, utilisant le caractère le plus actuel de la matérialité. Il y a une œuvre dans votre livre qui est très récente aussi, qui est celle de Jean Nouvel à la Dominique, avec ce parement d'écailles rouges qui est un matériau qui reflète d'un côté la vigne et de l'autre côté le ciel par un simple mouvement de ventelle et qui est de la haute technologie en matière de revêtement. Voilà,
c'est... Absolument.
Qu'est-ce que vous pensez de celui-là, qui voisine celui de Christian de Porzamparc et qui est pas son frère ennemi, mais en tous les cas, qui s'affiche avec une différence absolue de présence dans le territoire.
Ils ne l'ont pas fait exprès.
Oh, je ne suis pas sûr, ils se courent après depuis tellement longtemps.
Non, ils ne l'ont pas fait exprès, puisqu'il se trouve que les deux domaines sont l'un à côté de l'autre.
Donc oui.
Ça, c'était... Rouge, c'est rouge.
C'est le titre ça, que, le que titre, c'est rouge, c'est rouge.
Parce que je pense que Jean Nouvel, avec le goût qu'on lui connaît bien de la provocation, a fait exactement juste ce qu'il fallait pour apporter une note... de provocation avec ce choix très fort des parements rouges, ces petites plaques qui reflètent effectivement le ciel et la terre.
C'est inversé. Il y a une le très ciel vers le bas et, voilà. Et la vigne vers le haut.
Exactement.
C'est une inversion du.
Il y a une magnifique photo dans le livre due au photographe qui montre ça très très bien et qui montre comment ça s'unit avec les bâtiments anciens et avec le paysage autour. Je pense qu'il y a dans Jean Nouvel, dans cette idée-là aussi, il y a l'idée de faire au-delà de l'architecture une œuvre d'art et j'ai enfin une sculpture comme une sculpture et j'ai cité dans le texte plusieurs de ces phrases à travers sa carrière d'ailleurs c'est pas nouveau qui dit en gros que l'architecte aspire à être un artiste et que il le fait peut-être pas exprès mais que c'est toujours présent dans sa démarche et dans son ambition et là ça me semble tout à fait clair. Tant par le choix de la couleur, qui est vraiment quelque chose de très fort et de volontaire et de marquant et de provoquant, entre guillemets, au sens intéressant du terme, et par la constitution de cet emboîtement de plaques et de faisceaux, ainsi que par les clins d'œil qu'on retrouve sur le sommet de ce bâtiment avec cette espèce de piscine, entre guillemets.
Magnifique, de gravier rouge.
De gravier rouge, avec le lustre de Murano dans l'entrée, enfin qui sont. Autant de clins d'œil et autant de rappels de sa ligne de rupture et d'œuvre d'art. Et d'ailleurs, il a fait appel à un artiste qui l'a accompagné. Je précise pour ceux qui fréquentent le musée des Arts Premiers de Paris que le côté arrière, entre guillemets, du musée des Arts Premiers sur la rue de l'Université est exactement, entre guillemets, dans le même matériau. Oui. Et reprend de façon plus modeste et plus simple, et en système urbain, reprend ce principe des plaques qui reflètent le ciel et le sol. Et c'est tout à fait intéressant. Alors c'est vrai qu'à côté du chais sous la colline de Port-en-Parc, ça fait un peu drôle, enfin un peu étrange, cette juxtaposition de deux objets si différents. Mais en même temps, je trouve que c'est toute la richesse de ce qui se passe actuellement sur la rive gauche et sur la rive droite qu'on arrive à poser comme ça quelques beaux objets qui font réfléchir à l'architecture actuelle.
Oui, et avec des oppositions, des différences de point de vue, des appréciations très différentes de la relation au paysage et à l'outil technique.
Mais ceci étant, même dans le chais rouge de Nouvel, on retrouve cette préoccupation de l'environnementalité, du paysage et de la transparence, puisque le fond du chais est transparent et ouvre sur les vignes. Et donc, on retrouve quand même des éléments de langage et de représentation et de sémiologie propres à l'époque.
Oui, plus proche de celle de Jean-Michel Villemotte, avec cette radicalité de l'expression technique que de celle de Christian de Port-en-Parc, qui est un architecte qui décore les lieux. Les poutres ondulées. Et depuis les années 80, Christian de Port-en-Parc et Jean Nouvel, depuis le débat à la Salpêtrière, sont dans des oppositions frontales sur cette question du style.
Absolument.
Alors, justement, il y a là-dedans un truc que vous avez mis, là. Il y a une époque, il y a quelque chose des années 80, là. Il y a Pichon Baron.
Ah oui,
Et on pouvait pas. Il y a l'époque postmoderne. Il y a Jean de Thiers et Château Bordeaux.
Jean de Gastine.
Voilà.
Et cet étrange chais qui lui aussi a traversé, je trouve, merveilleusement bien le temps de Pichon, avec des inspirations qui me semblent assez proches de spiritualité et d'humanisme que l'on connaît bien. Et qui a réussi à imposer à côté de ce château de contes de fées, de ce château qui sort d'un film de Walt Disney, même s'il a été fait heureusement très longtemps avant, et qui a été très rénové avec toutes ces fioritures et toutes ces choses très charmantes, et que au pied de ce château, avec un plan d'eau, avec un miroir d'eau, comme sur les quais de Bordeaux. On crée ce chais de pierre avec ses pyramides, avec ses symboles très classique de la géométrie, les triangles, les ronds, les cercles, etc. Et que dessous, très récemment, un autre chai a été fait, qui lui-même est très contemporain, voile de béton très subtil, et qui se marie d'ailleurs très très bien avec l'ensemble. C'est tout à fait impressionnant, c'est très différent de tout le reste, ça a passé très bien le temps, et c'est bluffant de regarder comment c'était très, très prémonitoire.
Mais ce qui est formidable, c'est de lire dans l'histoire 74 Ricardo Bofill, qui ici ne fait pas du tout œuvre postmoderne comme il a pu le faire ailleurs et qui atteint une radicalité, une matérialité extraordinaire. Et quelques temps après, ces jeunes successeurs qui font quelque chose qui est un peu tarabiscoté, un peu chantourné, voilà. Alors, pour le moins. Alors ça, c'est les années 80.
C'est un concours.
Et c'est un concours. Et ça fait suite à une expo Château Bordeaux organisée par Jean de Thiers. Mais ce qui est vraiment intéressant dans le palimpseste que vous venez d'écrire, c'est qu'après Alain Triault, sous le bassin, fait une voûte extraordinaire avec un puits de jour qui regarde à travers le bassin. Alors ça, c'est aussi ça c'est formidable. Les époques se succèdent et pour arriver à faire ça, il faut beaucoup d'argent.
Ça me semble évident.
Voilà. C'est ça, c'est l'architecture.
Ce n'était pas l'objet principal de ce livre.
Non, mais.
Mais ça semble évident.
Mais oui, parce que toi, tu défais un château, tu creuses, et après, on reconstruit autour. Et là, c'est quand même l'idée que. Pour arriver à cette expression assez phénoménale de ces lieux de travail finalement, il faut un engagement très fort.
Mais moi je fais partie de l'école de pensée, excusez-moi de le dire aussi simplement que ça, mais je fais partie à titre personnel de l'école des pensées qui trouve que plus on investit mieux c'est, que plus on peut, grâce à un système économique qui est favorable, à un moment qui est favorable, ils l'ont pas toujours été.
Non.
Qui est favorable, on peut mettre des investissements significatifs à la gloire, entre guillemets, de cette région et de ses produits. Ce serait vrai d'ailleurs dans d'autres régions, ça l'a été dans plein d'autres. Que le moment est bon et que le no-tourisme est une réalité, que le mot de Bordeaux est un flagship, comme on dit maintenant, un drapeau qui fait partie de l'économie de la France et qui est extrêmement important. J'invite tous ceux qui en douteraient à aller se promener un peu à Hong Kong, à Shanghai et dans d'autres lieux du même genre pour en être sûr, que l'exportation du vin de qualité français, c'est plus de 10 milliards d'euros par an. C'est donc du sérieux, comme dit l'autre, c'est du lourd. Que ça continue, et que c'est bien que ça continue, et que ce courant d'architecture le porte de façon extraordinaire, et que je trouve assez exceptionnel et très favorable à notre pays à tout point de vue, en termes d'image, en termes d'investissement et en termes de retour sur investissement, que dans cette région qui porte si haut les couleurs de l'œnologie dans le monde, on ait osé avoir le courage, comme au 19e siècle pour certains châteaux, d'investir fortement, car effectivement ce sont de lourds investissements, d'investir fortement dans la nouvelle, entre guillemets, vision architecture. Et l'architecture, c'est toujours une belle histoire qu'on raconte, hein, avec tout ce que ça veut dire. Il était une fois, une fois de plus, si j'ose dire, les grands crus de Bordeaux, et je crois qu'ils sont suivis actuellement par plusieurs autres projets, et pas qu'à Bordeaux, racontent une belle histoire. Il était une fois le grand vin en France. Mmh. Et cette belle histoire, elle se décline à travers la littérature, à travers les articles des médias et à travers l'architecture. Et je trouve que c'est bien, excellent.
C'est magnifique. Et comme il faut des réactions à tout seigneur, tout honneur, Pétrus, lui, décide de ne rien montrer.
Pétrus, il montre en cachant. C'est plus subtil.
C'est plus subtil. Hein,
comme le disait le philosophe, la sortie est à l'intérieur. C'est alors, plus subtil.
Ils avaient appelé Herzog et de Meuron pour faire une
pour faire une partie, voilà, partie, un début. Ouais.
Et puis là, ce que vous montrez, c'est d'un chic inouï, c'est et c'est chic. La disparition totale voilà. De l'architecte du temps présent.
Discret, si discret. C'est, je crois,
c'est votre texte. Discret, si discret.
Voilà. C'est le titre du paragraphe. C'est en parfaite harmonie, si j'ai bien compris, avec la personnalité
de Jean-François
Mouex. C'est en même temps discret, mais très parlant, parce que quand on y passe un peu de temps, qu'on oublie un peu ce qu'on veut nous faire croire, et que l'œil libre, le regard ouvert, on décortique un peu, c'est beaucoup plus subtil, évidemment, que ça en a l'air. C'est un hommage à la Grèce, comme Hugh Johnson, le grand historien du vin, l'a tellement bien expliqué dans son merveilleux livre sur son histoire mondiale du vin. Tout ça, c'est quand même la boisson de base des Grecs qu'ils coupaient avec de l'eau et je ne sais pas quoi, et peut-être avec de l'eau de mer d'ailleurs, qui, des siècles et des siècles et des siècles plus tard, amène cette civilisation et cette culture extraordinaire qui est la nôtre actuellement, amplifiée par la mondialisation et amplifiée plutôt dans le très bon sens, même si évidemment il y a des excès, mais il faut faire attention, il faut les soigner. Et Pétrus, qui est l'un des premiers au milieu de tout ça, eh bien, trouve la voie de la discrétion, la voie de la tradition. La cour d'entrée, c'est un hommage à la Grèce, avec les amphores, les oliviers, le bélier, les nymphes, etc. Et quand on entre à l'intérieur, on comprend très bien tout ce qu'il y a eu de simplicité qui nécessite souvent un très grand travail. Je ne rappellerai pas la célèbre formule « less is more », mais « less is more », ça se prêterait très bien à ce qui a été fait après Pétrus. Et en même temps, un très bel hommage aux artisans, le travail du bois qu'on essaie de montrer grâce au photographe extraordinaire qui a fait ce livre. Et là, il y a toute une histoire personnelle de M. Mouex autour de ce château mythique, avec un rendu terriblement... fin, léger, encore une fois discret, mais je crois très très
éloge
très
de l'absence, subtil. Éloge de, voilà. De la fadeur, voilà, c'est magnifique. Oui. Voilà. Alors toutes ces tendances là, elles sont histoires, comme vous venez de le dire, de relations entre un auteur de vin, un propriétaire et puis un architecte.
Exactement.
Et par exemple, Philippine de Rothschild, qui était actrice. Ça m'a beaucoup intéressé dans votre texte, les Mazières sont là. Ce qui m'a intéressé, c'est de dire qu'elles pouvaient choisir, en plus de leur architecte, les Mazières qui travaillaient là. Merci. Tout d'un coup, elle avait besoin, on le savait toujours, de cet affect. Et elle se rappelant du temps où elle était actrice, elle appelle Peduzzi, qui est en fait un merveilleux scénographe de Patrice Chéreau, de Bondy, etc. Et elle l'appelle avec le souvenir d'un galion, finalement.
Voilà.
Et elle lui dit, fais-moi un chai, c'est ça ?
Voilà, fais-moi un chai, comme dans ta dernière scénographie d'un opéra de Wagner. Et Peduzzi raconte, c'est pour ça que je l'ai cité dans le livre, qu'il a été appelé au téléphone un après-midi alors qu'il était en Italie et qu'elle lui a demandé de faire ça en lui disant, voilà, je veux toi parce que tu connais le théâtre et tu es du théâtre comme moi, de la famille du théâtre. On sait que les théâtreux, ça n'a rien de péjoratif, sont une famille, donc tu es de la famille des théâtreux comme moi.
Voilà.
Et puis Wagner et puis le vaisseau fantôme. Alors tu me fais ça, c'est ça que je veux, c'est ça dont je rêve.
Pour demain.
Et voilà. Et c'est ainsi qu'on a ce chai extraordinaire, suspendu en l'air, comme une magnifique scène de théâtre. On parle aussi, c'est peut-être notre conclusion, de la cité du vin, qui s'élève pas très loin d'ici, qui sera inaugurée, je crois, le 1er juin, juste au début du mois de juin.
Que vous avez mis au centre.
On l'a mis au centre, parce qu'entre la rive gauche et la rive droite, c'était plutôt le bon endroit pour poser la cité du vin, donc qui est due à Anouk Lejean, l'agence XTU, qui est une agence qui se pique de technologies, de nouveautés, de recherches très pointues, et qui là offre un bâtiment qui va se voir maintenant, qui va faire partie du paysage de Bordeaux, comme d'autres... comme la cathédrale, comme la gare, comme les quais, comme le pont Chaban-Delmas, comme la bourse, comme le truc d'eau, là, le miroir d'eau, qui va faire partie du paysage urbain de Bordeaux, qui va accueillir, je pense, des milliers, et j'espère, des centaines de milliers de visiteurs. La scénographie intérieure, le parcours a été fait par une agence anglaise qui est spécialisée dans ce genre de choses.
Cassonman,
c'est ça. Et donc, à partir du mois de juin, il y aura là la découverte de... Alors, le bâtiment devait s'appeler la cité des civilisations du vin. Et un certain nombre de personnes comme moi trouvaient que c'était plutôt une très très bonne idée, parce qu'enfin, on pouvait employer ce mot de civilisation qui est si dense, si fort, si passionnant. Merci, monsieur Brodel. Et de le mettre à côté du mot vin et de le mettre à côté du mot cité, c'était trois concepts qui, pour la première fois à ma connaissance en France et dans le monde, pouvaient permettre de dialoguer ensemble, la cité, le vin et la civilisation. Même si c'était une façon un peu astucieuse de tirer le mot de civilisation qui n'a pas été fait pour ça, mais qui s'y prêtait assez bien. Pour différentes raisons que je comprends, les responsables ont décidé de l'appeler la cité du vin, parce que c'est évidemment plus simple à comprendre et c'est plus signifiant de façon rapide. Je pense que c'est la première fois qu'on va... Alors, il y aura une deuxième fois, c'est en Bourgogne à Dijon, où une cité du même genre est en construction, les travaux viennent de commencer. Ce sera l'occasion de parler de la civilisation du vin, de son origine à aujourd'hui, du vin dans le monde, et Dieu sait si c'est un sujet tout à fait extraordinaire à évoquer, de parler de l'art du vin, de parler des techniques, de terminer par des dégustations, d'avoir une librairie, je suppose, qui ne concurrencera pas celle de Mola, mais qui offrira tout un ensemble de livres sur le vin, et pas que de livres, qui utilisera les technologies actuelles. Donc c'est un événement fort pour Bordeaux, qui se marie donc avec le développement de l'œnologie. Tous les châteaux nouveaux maintenant se sont équipés pour recevoir les visiteurs de façon très structurée. Il y aura des bateaux qui partiront sur le fleuve de la Cité du Vin et qui remonteront pour visiter les propriétés. Enfin, voilà. Bordeaux s'ouvre. Les magnifiques châteaux de Bordeaux qui étaient parfois un peu fermés. En tout cas au public, au grand public entre guillemets, s'ouvre. Tout ça est une excellente chose, tout ça justifie les investissements et tout ça, je pense, va recueillir un grand succès.
Merci pour ce livre que je conseille à tout le monde de lire. Je l'ai lu avec grand plaisir, c'est magnifique comme facture de livre et comme contenu.
Merci à l'éditeur en tout cas et à l'écrivain.